Péché. Alors nous voulons considérer ce soir la question du péché. Donc le mot n'est pas un mot qui est très populaire, en tout cas pas dans l'opinion aujourd'hui, hein, comme il l'était autrefois. C'est un mot qui dérange et vous pouvez passer, je pense, des heures à écouter ou à regarder des films ou à écouter les informations sans même entendre une seule fois parler de ce mot. On lui préfère souvent des mots comme erreur, faute, échec, faux pas ou parfois maladresse, hein. On a des gens qui ont fait des choses graves et puis ils disent c'est une maladresse. Et quand les hommes emploient le mot péché, souvent ils y ajoutent un petit qualificatif pour, comme pour alléger un peu le poids de ce mot. Alors on trouve péché mignon par exemple, hein. Et donc, c'est quelque chose qui, on pourrait dire, une notion qui est peut-être sortie de l'époque dans laquelle nous vivons. Et si vous dites à quelqu'un, tu as péché, je crois que sa réaction sera vive. Si vous lui dites, tu as commis une faute, ou tu as commis une erreur, tu as commis une maladresse, ça ira. Et je me souviens, à un moment, il y a quelques années, je parlais avec quelqu'un et je lui ai dit, mais ça, c'est un péché. Et cette personne, c'était pas un chrétien, et pas une chrétienne, elle m'a dit cette personne, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, pas si vite, pas si vite, hein. C'est tout de suite les grands mots, hein. C'était une manière de dire, attention, ça c'est vraiment, hein, on peut pas utiliser ce mot-là, on veut pas l'utiliser parce que quelque part ça dérange. Et la raison peut-être, c'est que la notion de péché renvoie, je pense, à une norme extérieure à soi. Et l'homme ne veut pas être dirigé, ne veut pas être soumise à quelques lois extérieures et donc c'est quelque chose qui dérange. Et même si le péché quand même a disparu du langage moderne, je crois qu'il n'en demeure pas moins présent dans sa réalité et puis dans surtout ses conséquences. Et quand nous lisons la Bible, nous devons souligner comment la Bible insiste fortement sur le péché. Il est impossible, hein, de lire la Bible sans être confronté au péché, il y a ses multiples facettes. Que ce soit déjà dans la Genèse, que ce soit dans les psaumes, dans les proverbes, dans tout le Nouveau Testament, on ne peut pas échapper à cela. Et la mission de Jésus-Christ est décrite en rapport avec le péché. Rappelez-vous ce que l'ange dit à Joseph. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, lorsque Jésus était sur terre, eh bien, à un moment donné, l'Écriture nous dit que Jean-Baptiste le voit passer avec ses disciples et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ est présenté, eh bien, en rapport avec le péché. 1 Jean 3, 5 dit, or, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'a point en lui de péché. Et même le message même, hein, que Jésus confie à ses disciples, le message de l'évangile, et qui est contenu dans toute l'écriture, lorsque, au soir même de sa résurrection, quand Jésus se retrouve dans l'appartement avec ses disciples, la Bible dit en Luc 24, 45 et 47 qu'il leur a ouvert l'esprit, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà donc, toute l'écriture parle du péché, et c'est une notion sous laquelle Dieu insiste dans l'écriture. Alors qu'est-ce que le péché? C'est notre question. Alors, on pourrait parler de la nature du péché, un petit peu, en premier lieu. Il y a, quand on lit l'Écriture, un lien extrêmement étroit entre la loi de Dieu et le péché. Dans le Nouveau Testament, on lit que la loi amène la connaissance du péché et elle définit ainsi le péché. L'apôtre Paul dit en Romains 7, 7, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et si on lit les nombreuses confessions dans la Bible, dans l'Ancien Testament par exemple, on voit comment quand le peuple, surtout les prophètes, eh bien, au nom du peuple parlent, eh bien, ils Dans ses prières de confession, il y a toujours référence à la loi de Dieu. Par exemple, Daniel 9, verset 5 dit ceci: Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Tout ça, ce sont des manières d'exprimer le péché ici, hein. Il dit, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Hein. Et donc c'est en cela qu'a consisté le péché, le fait de s'être détourné de la loi de Dieu et de ses commandements. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, 4, que quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc on voit bien que le péché est défini non pas par rapport à nous, par rapport à des règles qui existent quelque part, mais par rapport à la loi de Dieu et à Dieu lui-même. D'accord? Le mot péché, hein, signifie manquer la cible, comme c'est utilisé ici dans Jean, et cela nous parle de l'apôtre Jean dit que c'est une transgression, donc c'est une violation de la loi de Dieu. Hein. Donc péché, c'est violer la loi de Dieu, c'est mépriser la loi de Dieu ici. Plusieurs mots sont utilisés dans l'Écriture pour traduire le péché. Hein. On trouve iniquité, méchanceté, transgression, rébellion. Mais tous font prendre, je crois, conscience que le péché est vraiment une révolte contre Dieu, mais aussi contre la loi que Dieu nous a donné. Lorsque Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, ont désobéi en mangeant du fruit défendu, ils n'ont pas fait que manger du fruit. Le péché n'a pas consisté dans le fait de manger ou de voir que l'arbre était bon et précieux pour ouvrir l'intelligence, mais il est dans le fait ils n'ont pas obéi à la loi, à la parole que Dieu leur avait donnée, au commandement que Dieu leur avait donné. Et ce faisant, ils ont déclaré, c'est comme s'ils avaient déclaré à Dieu qu'ils rejetaient son autorité, qu'ils rejetaient sa loi. Ils ont déclaré vouloir être leur propre maître, décider par eux-mêmes de ce qu'ils devaient faire. En substance, leur péché contenait tout cela. Ils n'ont pas agi conformément à la loi de Dieu. Donc on pourrait dire que le péché, et c'est la première partie d'une réponse, est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu. Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu. Mais le péché ne concerne pas seulement les actes que nous pouvons faire avec nos mains, nos pieds, etc., comme voler, ou bien que nous pouvons voilà, dire. Hein. Le péché consiste aussi en toute attitude de cœur ou de pensée qui s'oppose aussi à la loi de Dieu. On a vu les 2 semaines passées dans les 10 commandements, et on a souligné le fait que ces commandements ne concernaient pas seulement les choses que l'on pouvait faire physiquement, extérieurement, mais que la loi visait vraiment le cœur, l'attitude, les affections même du cœur de l'homme. Et si on pense par exemple à Simon le magicien dans le livre des Actes, hein, le livre des Actes raconte cette histoire d'un homme qui semble-t-il, enfin il semblait s'être tourné vers Dieu, s'intéressait à l'évangile, et puis quand il a vu que Simon pouvait imposer les mains et puis que les gens recevaient le Saint-Esprit, il a voulu avoir ce don-là. Il a proposé de payer de l'argent pour avoir ce don. Et rappelez-vous de la réponse de Simon, il dit ceci, acte 8, Pierre dit, que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Donc je lis dans la version Darby ici, hein, il dit, tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que, s'il se peut, eh bien, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Vous voyez ici, il est question de qu'il a pensé acquérir avec de l'argent, et Pierre dit, repens-toi pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc le péché, c'est pas quelque chose qu'il avait fait, il n'a pas donné des coups de poing aux apôtres, mais il a penser d'une certaine manière concernant le Saint-Esprit et le don que Dieu voulait offrir. Et cela a constitué son péché. Parfois, c'est par la parole que l'on pêche aussi. Hein. Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est donc que la parole que l'on, les paroles que nous prononçons, eh bien, sont importantes et peuvent être l'expression aussi du péché. Matthieu chapitre 12, verset 36. Et donc, qu'est-ce que le péché, hein? Je peux vous montrer maintenant la réponse un peu complète que nous avons considérée ici. Eh bien, le péché est tout manquement de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos paroles ou de nos pensées. Encore une fois, le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Et donc, c'est ainsi qu'il faut considérer le péché, pas comme nous avons envie, mais comme l'Écriture nous le montre en rapport avec la loi de Dieu, au fait qu'on n'est pas conforme avec cette loi de Dieu, et donc avec Dieu, et cela dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous affectionnons ici. Mais je voudrais aller quand même plus loin ici, hein, et voir un peu ce que la Bible dit des conséquences, en tout cas brièvement, des conséquences du péché. Pour bon nombre de nos concitoyens, hein, le mot péché a été rayé vraiment du vocabulaire. Et le péché n'est pas si grave que ça. Mais la Bible présente les conséquences du péché en des termes très forts. Je voudrais déjà lire un petit peu ce que l'on voit dans la Genèse sur l'origine un peu du péché, dans l'entrée du péché dans le monde et dans la vie de l'homme. Donc Genèse chapitre 3, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Genèse chapitre 3. Et je ne vais pas lire le début de l'histoire si vous ne la connaissez pas. Bon, si vous êtes chrétien, vous la connaissez depuis longtemps, mais si vous nous suivez et puis vous ne connaissez pas cette histoire, donc c'est dans le premier livre de la Bible, nous allons lire à partir du verset 16, mais l'histoire de la chute de l'homme commence à partir du verset 1 du chapitre 3. Donc Genèse chapitre 3, donc ici, la Bible raconte que le serpent a séduit Ève et puis l'a poussée à manger du fruit que Dieu avait défendu de manger, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en a pris, elle en a mangé, elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Après, eh bien, l'homme et la femme se sont retrouvés, ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Et lorsque Dieu revient le soir dans le jardin pour parler à Adam, eh bien, Adam est caché. Et donc Dieu lui parle. Et puis c'est là qu'on a tout, on pourrait dire, hein, en substance, les conséquences qui sont dues au péché de l'homme. Donc à partir du verset 14, pardon, je lis Genèse chapitre 3, à partir du verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc Dieu avait vu Adam, Ève, et puis leur a demandé pourquoi vous avez mangé du fruit qui était défendu. Adam, bien sûr, il a accusé sa femme en disant que c'est la femme que tu as mise auprès de moi, verset 12, qui m'en a donné et j'en ai mangé. Et puis Dieu interroge la femme et la femme dit, eh bien, que c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé, au verset 13. Verset 14, donc, il dit, l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, on n'a pas le temps de rentrer en détail dans tout ce qui est dit ici, mais on a en substance voilà, des conséquences qui sont graves sur l'environnement de Adam et Ève, et puis dans la vie même d'Adam et Ève. On voit ici apparaître la honte au verset 8, la perte de la communion avec Dieu. Hein, le péché, nous dit Ésaïe, nous cache la face de Dieu. On voit la perte de la communion dans le couple. Hein. Déjà, Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. On voit le désordre dans la création, la pénibilité qui arrive dans le travail, les douleurs dans l'enfantement, la mort physique, la mort spirituelle, et puis aussi la mort éternelle. Hein. Ici. Donc on voit, on a en substance tout cela qui est contenu dans ce qui est annoncé ici comme par Dieu, hein, comme conséquence du péché. Et quand on lit l'Épître aux Romains, on voit, chapitre 1, on voit toute la conséquence du péché. Il est dit que Dieu a livré l'homme à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas parce qu'ils ont abandonné le Créateur. Et donc, les conséquences du péché sont graves. Elles se sont étendues. Hein, le péché et ses conséquences s'est étendu à toute la race humaine. C'est pas cantonné simplement à Adam et juste l'environnement qu'occupait Adam, mais il s'est étendu à toute la création et à toute la race humaine. La Bible dit tous les hommes sont des pécheurs et tous les hommes sont corrompus par le péché. Psaume 14, verset 3 dit tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Salomon dit dans sa prière, dans 1 Roi chapitre 8, verset 46, il dit, il n'y a point d'homme qui ne pèche. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne pêchent pas, ils ne font pas grand-chose, ou alors ce qu'ils font n'est pas grave par rapport à ce que les autres font. Mais l'Écriture dit que tous les hommes sont pécheurs devant Dieu, ils ont enfreint la loi de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Et ce passage explique l'étendue, les conséquences du péché, l'entrée du péché dans l'humanité. Le péché a entraîné la mort et la mort a atteint tous les hommes. Et ainsi, à cause du péché d'Adam, eh bien, tous meurent. Parce que, à cause d'Adam, tous ont péché. C'est ce que nous dit ici ce passage. Et un peu avant dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 19, l'apôtre Paul dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, ici. Hein? Et donc tous les êtres humains ont hérité de la culpabilité et de la corruption du péché à cause du péché d'Adam. Dans notre vie aujourd'hui, les hommes aiment bien quand il y a quelque chose qui se passe chez les policiers de mauvais ou bien chez les hommes politiques de mauvais, ils aiment bien dire tous pourris, tous les mêmes, tous pourris. Mais ici, c'est Dieu qui parle et qui parle des hommes en disant tous coupables, tous corrompus à cause du péché d'Adam. Donc le péché s'est étendu à tous les hommes, la corruption s'est étendue à tous les hommes, la culpabilité s'est étendue à tous les hommes à cause du péché d'Adam. Et le jugement, et une conséquence en tout cas du péché, c'est le jugement que Dieu fait porter, hein, contre l'homme pécheur et contre le péché. Et les paroles de la Bible sont terribles quand elles présentent le jugement de Dieu à cause du péché. Écoutez juste un passage, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 à 9 dit ceci, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 25 au verset 46, il parle de ceux qui iront au châtiment éternel. Il s'agit ici de l'enfer, hein, de lieu de tourment éternel, conscient qui sera la destination des hommes pécheurs. La question 15 qu'on n'a pas encore vue de notre catéchisme dit ceci, quelle a été la conséquence du péché d'Adam sur l'humanité? Et la réponse est formulé comme cela, la conséquence du péché d'Adam a été que tous les hommes naissent dans le péché et demeurent sous la colère et le jugement de Dieu, et ils sont assujettis à la misère, à la mort et à l'enfer. Donc la mort et la mort physique, la mort spirituelle, aussi la mort, surtout la mort éternelle, c'est pas la séparation à jamais de la présence de Dieu. Et dans ce lieu de tourment où Jésus dit où le feu ne s'éteint point, où le ver ne meurt point, et le sort pour l'homme pécheur et qui demeure dans son péché. Mais je voudrais terminer quand même avec le remède hein, au péché. Le péché est le principal problème de l'humanité. Nous devons comprendre cela. Où que l'homme se trouve, sous quelque latitude qu'il habite, son problème fondamental n'est pas celui d'un manque de moyens, n'est pas celui du manque de sens à sa vie, n'est pas celui du manque d'éducation, n'est pas celui du manque de moyens sanitaires, mais son problème fondamental est celui de son péché. L'Écriture révèle la terrible condition, nous l'avons vu, hein, qui attend l'homme pécheur, ici dans laquelle l'homme pécheur se trouve, mais elle expose aussi très clairement, je veux dire, la sublime solution que Dieu apporte à la question du péché des hommes. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains chapitre 6, verset 23. Et on l'a lu ce verset tout à l'heure, mais l'apôtre Jean dit, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Donc voilà, il y a bien sûr l'exposition terrible du péché, de ses conséquences, mais il y a aussi l'exposition de la solution que Dieu amène par lui-même à la question du péché dans la vie des hommes. Et donc le problème fondamental de l'homme est celui de son péché, et par conséquent, son besoin n'est pas le besoin d'éducation, ni besoin de plus d'écologie, ni besoin de plus de considération, ni besoin de plus d'aide, mais son besoin, c'est le besoin d'un sauveur. Son problème, c'est le problème du péché. Son besoin, c'est le besoin d'un sauveur. Jésus-Christ, nous dit l'Écriture, est le seul rempart contre la colère de Dieu. C'est lui, hein, dit l'Écriture, qui nous préserve de la colère à venir. Acte 4, verset 12, dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Okay. » Être sauvé, c'est donc tout ce dont l'homme a besoin, ce dont l'homme pécheur a besoin. Et Jésus-Christ est l'unique solution, l'unique sauveur. Celui qui croit, nous dit l'Écriture, a au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, voilà, la solution que Dieu apporte à la question du péché, c'est Jésus-Christ, qui, le Fils de Dieu, qui s'est incarné, qui a vécu sur cette terre, qui a offert sa vie. L'apôtre Paul dit l'Écriture explique qu'il est mort sur la croix pour nous, et qu'il est ressuscité pour notre justification, et par lui nous avons la vie et nous échappons au péché et à la colère et au jugement de Dieu. Il n'y a donc, dit l'Épître aux Romains, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la condamnation demeure pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Alors je termine en disant que l'Évangile est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul. Il est la solution pourvu par Dieu et qui répond parfaitement au plus grand besoin de l'homme, le besoin d'être sauvé de ses péchés, d'être sauvé de la colère de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ne considérons pas le péché comme quelque chose de... comme une peccadille, comme on dit. Peccadille, hein, ça veut dire petit péché sans grande importance. Ça n'existe pas. Hein. C'était une petite chose que de manger le fruit défendu. Mais on voit jusqu'où ça a amené notre monde aujourd'hui. Eh bien, ne considérons pas le péché à la légère, mais adoptons face au péché ce que l'Écriture exige que nous adoptions comme attitude. La confession, la repentance, et puis bien sûr la foi en Jésus-Christ. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc si voilà, on n'est pas au Seigneur, il faut se tourner vers lui. C'est lui qui est le salut hein, que Dieu offre. croire en lui, placer notre confiance, passer votre confiance en lui. Mais si vous êtes au Seigneur aussi, eh bien la Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est un mot pour désigner aussi le péché. Donc que le Seigneur nous donne de considérer cela, et je reprends encore la question ici, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Parce que vous voyez bien ici, donc on va le dire ensemble, le péché est tout manque
Manque
de
de conformité
conformité
à
à
la
la
loi
loi
morale
morale
de
de
Dieu
Dieu au
au
niveau
niveau de
de nos
nos
actes,
actes,
de
de
nos
nos
paroles
paroles
ou
ou
de
de
nos
nos
pensées.
pensées.
Très bien, prions. Oui Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que ta parole nous révèle ce que nous sommes vraiment, des pécheurs. Mais en même temps, elle nous révèle que tu es un Dieu de grâce et qui, dès avant la fondation du monde, a pourvu le moyen pour que les hommes et les femmes se tournent vers toi et soient sauvés de leurs péchés, de ta colère. Oh, nous te louons pour cet évangile de salut, pour ta grâce qui a été manifestée en la personne de Jésus-Christ, ton Fils. Mais nous te prions aussi, Seigneur, pour que tu nous donnes d'avoir une sainte horreur du péché, Seigneur, de nous en détourner, de voir le péché non pas avec nos propres mesures et nos propres normes, mais de le voir tel que tu le décris dans ta parole. De voir que le péché est un manquement à ta loi morale au niveau de nos actes, de nos paroles ou de nos pensées. Et aide-nous, Seigneur, à vivre une vie qui t'honore en nous éloignant véritablement du péché. Seigneur, nous te prions que tu agisses dans nos cœurs par ton esprit et à la gloire de ton nom. Amen.